Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave et le désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Bonjour. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. C'est Florence au micro et aux manettes. Nous sommes le 17 janvier 2024. C'est la 146e émission. C'est la 11e année qui est partie. Le thème d'aujourd'hui, que des albums. Pas du tout d'invités. Migration et exil ou exode, un peu comme vous voulez. Alors, des albums. Les albums Réfugiés de Ilan Breman et Guilherme Karsten. C'est paru en 2019 chez Versant Sud. Ensuite, Un instant de silence de Florence Jennermetz et Juliette David, paru en 2022 chez Alice Éditions. Puis Massamba, le marchand de Tour Eiffel, paru en 2018 chez Gallimard Jeunesse. Et La roulotte de Zoé de Claude Clément et Magali Dulin, paru en 2015 aux éditions des Éléphants. Nous aurons un instant philo avec la petite série Philomino. Le loup de Hobbes, c'est paru en 2023. C'est illustré par Herbera et l'autrice de la série, c'est Alice Brière-Hacquet. Nous aurons d'ailleurs un entretien, enfin, c'est pas moi qui ai fait l'entretien, c'est la feuille de Quilombo numéro 6 qui a demandé à l'autrice de la série ce qu'elle voulait transmettre par là. Et si j'ai le temps, le mythe fondateur Soninké, fondateur de l'exode Soninké, La légende de Ouagadou Bouida, c'est paru en 2010 aux éditions d'Onuya, c'est à Bamako. Bon, ça, c'est pas sûr parce qu'il est très long. J'aimerais prendre le temps de quelques annonces. Le CD, il y en a un. C'est Thomas Pithiot, le nouveau disque de Thomas Pithiot pour les enfants qui est paru l'année dernière en 2023. Et c'est La Reine des Patates. Eh bien, je vais commencer par le titre éponyme de La Reine des Patates. Oui, c'est un disque vraiment très sympa pour les enfants. Nous connaissons bien Thomas Pithiot qui, le traître, a quitté Aubervilliers pour le soleil du midi. Donc, voilà, ça a été paru, enfin, il a écrit une des chansons avec un CM2. Il habite Avignon, je crois, maintenant. Et il y a plein de remerciements. C'est un très beau livre-disque, un format CD. On va commencer par le titre éponyme. C'est ce que je vous ai dit, La Reine des Patates. Ah ben non, pardon.
Et maintenant, La Reine des Patates.
Une petite maison à gâter, dans laquelle on ne mange jamais de riz ni de pâtes. Elle jardine un petit bout de terre qu'elle squatte, et dès le lever du soleil, elle y traîne sa savate. Ya, 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 ya. Agathe, c'est la reine des patates. Elle fait des frites, des pommes sautées, des tortillas et de la purée. Agathe, c'est la reine des patates. Elle mange des chips et des gnocchis, du gratin et puis du hachis. Par entier, yeah, yeah. Ni poireaux ni tomates. Elle dit que la pomme de terre est bien plus délicate. Quand j'ai trop faim que mon estomac me gratte, je vais manger chez Agathe. Et là on fait moite moite. Ya 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 ya. Agathe c'est la reine des patates. Elle fait des frites, des pommes sautées, des tortillas et de la purée. Agathe c'est la reine des Elle mange des chips et des gnocchis, du gratin et puis du hachis. Parmentier. Elle me dit t'es gourmand comme un pirate. Et quand on mange, on rigole, et surtout on blablate. On se fait des blagues, on se fait des croche-pattes. Agathe a toujours le sourire, elle a toujours la patate. Ya, 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 ya. Agathe, c'est la reine des patates. Elle fait des frites, des pommes sautées, des tortillas et de la purée. Agathe, c'est la reine des patates. Elle mange des chips et des gnocchis, du gratin et puis du hachis. Parmentier. Sauter des tortillas et de la purée. Agathe, c'est la reine des patates. Elle mange des chips et des gnocchis, du gratin et puis du hachis. Parmentier.
Voilà, Thomas Pithiot. Nous diffuserons les titres par ordre 1, 2, 3, 4, etc. Réfugié, Ilan Bremann. C'est d'abord paru au Brésil avant d'avoir été traduit en français. C'est paru au Brésil en 2019 et traduit en français la même année. Et l'illustration, c'est Guilherme Carsten. C'est donc, et ça a été traduit du portugais brésilien par Julia Peslier chez Versant Sud. Je vous lis d'abord la quatrième de couverture. De l'Égypte ancienne à nos jours, des familles fuient la guerre, la famine ou la terreur. À travers le temps, de pays en pays, l'histoire se répète, celle de l'humanité. Un album simple et puissant qui raconte le sort des réfugiés à une époque où, plus que jamais, nous avons besoin d'entraide et de fraternité. L'album coûte 15 euros. Alors, ça commence par l'Égypte ancienne, en effet, et ça commence par un tas de pages sans texte. C'est un peu une gageure de lire un album sans texte à la radio. Mais je vais un petit peu expliquer certaines choses. D'abord, il y a un enfant égyptien ou un adulte, on ne sait pas trop, plutôt un adulte, qui porte autour du cou un gris-gris qui ressemble à une pochette de téléphone portable. Mais bon, c'est un gris-gris en tissu avec des stries blanches. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. La page suivante, on voit des pyramides et la fuite d'une famille. On voit des arbres qui sont desséchés, des buffles qui sont morts, qui sont sous forme de squelettes. Et on voit un grand bonhomme égyptien qui regarde méchamment devant la porte de la pyramide, la famille qui se sauve, le père qui porte le gris-gris, deux paquets, la mère qui porte un bébé, et l'enfant qui tient un petit chat sous le bras et qui tire un buffle. Deuxième page, on voit cette famille arriver devant une ville, une citadelle avec des tas d'hommes très, très patibulaires. Alors, au visage patibulaire, ils n'ont pas l'air ravis de les voir arriver. Page suivante. C'est une ville assiégée. Cette ville est assiégée par des combattants dont on ne voit pas beaucoup les visages. On voit les flèches, les échelles, les protections. Et on voit une famille encore qui se sauve toujours. Le père, la mère et les deux enfants avec des tapis, des tas de choses. Là, c'est la mère qui tient le gris-gris autour du cou. Page suivante. Ils arrivent encore devant une autre ville, là, qui semble déjà un petit peu plus proche dans le temps. Ils sont totalement épuisés et les gens sont toujours aussi peu avenants pour les accueillir. Page suivante, les croisés qui cette fois, ont des boucliers avec des croix, des croisés qui assiègent la ville et toujours une famille qui s'enfuit. Page suivante, là on est visiblement dans la neige. La famille arrive à une autre ville. Ah là, on n'est plus du tout au Moyen-Âge. On a l'air d'être plutôt au 19e siècle. Et comme d'habitude dans cette ville, l'accueil est plutôt très désagréable. Page suivante. Une ville en flammes et des soldats, des avions de la guerre de 14, on va dire, et puis des avions de la guerre de 40. La famille fuit. Elle prend le bateau, le paquebot les débarque et ils arrivent dans une autre ville toujours aussi peu accueillante. Et du paquebot déboulent des tas de gens et soupe, free soupe. War is over, peace, et des portes closed for rent. Enfin voilà, c'est les gens se sauvent, c'est la misère, il y a les soupes populaires. Dernière page, non, avant-dernière page, descente d'avion jusqu'à une ville où là il y a des voitures, on est encore un peu plus près dans le temps, hôtel, café, restaurant, pizza et des tronches peu avenantes pour accueillir les gens qui débarquent. Il y a toujours une personne qui a le petit gris-gris. Et dernière, avant-dernière page, on arrive devant une maison, une série de maisons un peu à l'anglaise ou à l'américaine. Les gens sont toujours aussi peu accueillis. Cette fois, ils ont un teint très, très basané. Et dernière page, on est dans un square avec des gens, on est tout près de cet immeuble, avec des gens basanés, des gens de peau claire et les enfants qui jouent dans un jardin. Et le petit gamin qui a la peau claire donne le gris-gris à celui qui a la peau basanée. Et en haut, il y a un vol d'oiseaux dans le ciel. Ce geste symbolise les réfugiés. Un enfant est né, le monde s'est repris à commencer. C'est une citation de Guimarães Rosa que je ne connais pas. Et juste après, un texte pour les parents. Pourquoi commencer notre histoire dans l'Égypte ancienne? Parce que c'est là que la déesse Maat est apparue. Déesse représentant la vérité, la justice et l'équilibre. La déesse portait une plume d'autruche sur la tête. Le collier de Maat commence donc son voyage par une famille égyptienne et le poursuit jusqu'à la fin du récit. Plus que jamais, nous avons besoin de vérité, de justice et d'équilibre. L'histoire des réfugiés, c'est un peu l'histoire de chaque famille vivant aujourd'hui où, à n'importe quel moment et pour des raisons les plus diverses, nous devons abandonner notre foyer pour chercher un nouveau commencement. Le récit se déploie en des temps anciens et contemporains et embrasse une géographie réelle et imaginaire. Nous accompagnons la saga de différentes familles à travers l'Égypte, Bagdad, Constantinople, l'Europe, les États-Unis. Mais les réfugiés ne sont pas seulement celles et ceux du passé, ils font aussi partie de notre présent. Et pour comprendre un problème et tenter de le résoudre, il n'y a rien de mieux que de l'affronter de face. J'espère que ce livre ouvrira l'espace à de nombreuses conversations entre enfants, jeunes gens et adultes à travers le monde. Voilà, je vous conseille ce livre sans texte, sauf la page finale, qui est accessible très jeune. Réfugié de Ilan Brennan, illustré par Guilherme Carsten chez Versant Sud en 2019. Un autre titre de Thomas Pithiot. Dessiné sur les murs.
Moi je continue à dessiner sur les murs des papillons, des bonhommes et des voitures, même si on les recouvre de peinture. Je reviendrai demain dessiner, ça c'est sûr. La ville est pleine de carrés à dessin. Malheureusement, à l'intérieur, il n'y a rien. Tu peux y ajouter un petit poussin, une jolie fleur, un beau soleil, c'est trois fois rien. Boum, bada, boum, bada, boum, bada, boum, baba. Boum, bada, boum, bada, boum, bada, boum, baba. On voit partout plein de publicité. C'est pour acheter, c'est pour acheter, c'est pour acheter. Faisons des dessins pour les remplacer. C'est pour rêver, c'est pour rêver, c'est pour rêver. À toi de dessiner une marelle. À cloche-pied, on peut rejoindre l'arc-en-ciel. Il y a tellement de choses dans tes prunelles. Quand ton pinceau se libère comme une hirondelle. Boum, bada, boum, bada, boum.
dessiner sur les murs. Des éléphants, des girafes et des figures. Même si on les recouvre de peinture, je reviendrai demain dessiner ça c'est sûr. Moi je veux continuer à dessiner sur les murs des papillons, des bonhommes et des voitures. Même si on les recouvre de peinture, je reviendrai demain dessiner ça c'est sûr.
Thomas Pithiot, c'est son deuxième album pour enfants. C'est La Reine des Patates, paru en 2023, l'année dernière. Son premier disque, je me souviens, il devait venir. En fait, il était malade. On a eu une conversation par téléphone très raccourcie parce qu'il n'avait plus de voix. Et c'était un peu dommage. Vous pouvez retrouver sur le site des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche des cailloux dans l'engrenage. Vous tapez Thomas Pithiot et vous tombez dans la recherche sur l'émission qui est concernée. Donc Thomas Pithiot, la Reine des Patates cette fois. Et nous allons continuer dans le thème migration, exil et exode avec un autre album très, très fort qui s'appelle Un instant de silence de Florence Jennermetz, illustré par Juliette David. C'est dans la collection Histoire comme ça chez Alice Jeunesse. C'est sorti en 2022 et ça coûte 15 euros. Et voilà ce qu'il y a décrit dans la quatrième de couverture. Avec son frère Aman, Yemane a quitté son pays, l'Érythrée, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il nous raconte avec sensibilité et poésie son long et dangereux périple pour arriver à Calais. Alors, les dessins sont assez stylisés. On ne voit pas les bouches au début. Après un peu, mais au début, on ne voit qu'un tout petit point pour l'œil, un petit trait pour le sourcil. Et puis, c'est tout pour les traits du visage. Très, très, très beau, plein d'oiseaux au départ, un instant de silence. Pour écouter les oiseaux qui s'agitent au-dessus de nos têtes, aucune frontière ne les arrête, aucun barbelé ne les blesse. Pour sentir l'odeur de la pluie fine chargée d'humus et d'herbes fraîches, bien loin de l'odeur de mon désert, sèche et salée. Pour regarder la vie du camp qui grouille, étrange fourmilière, le dédale des petits chemins, où se trouve le ravitaillement, les endroits sombres à éviter, la lumière qui me réchauffe dans cette ville au nom surprenant, Calais. C'est dans le nord de la France, bien entendu. Pour me souvenir de ma chèvre Karam, du sourire expiègle de ma toute petite sœur, de ma mère au regard sévère et puissant, de son courage, de son amour. Pour me souvenir encore de tout ce que j'aime et que j'ai laissé là-bas, qui m'ont dit de partir pour la France, puis pour l'Angleterre, leurs économies au fond de mes baskets, pour une autre vie. Une vie meilleure, pour me souvenir surtout de mon frère dont j'ai perdu la main sur le bateau trop chargé, mangé par les vagues. Qu'es-tu devenu, Aman, pour oublier aussi les hurlements des trafiquants, le camp d'Itsats où nous attendions entassés. Le passeur aux yeux aveugles qui nous a arraché les billets des mains sans dire mot. La traversée, la peur d'être arrêté, vendu, exploité, torturé. La détresse et les cris, notre silence, ma solitude. Pour comprendre pourquoi il faut quitter un pays aussi beau, Érythrée, mon Érythrée, à cause de la misère, à cause des milices. Pourquoi c'est si difficile de vivre là-bas quand on n'est pas riche? On ne peut alors que devenir soldat, mineur à Bichat ou encore pêcheur, comme mon père. Pour comprendre aussi l'injustice. Pourquoi certains peuvent-ils courir, rire, rêver, étudier, s'empiffrer, et d'autres, juste, se taire? Pour pleurer, enfin. Pour espérer, une main qui me relève, un regard franc plongé dans le mien au fond de ce camp à Calais. Je suis une personne comme toi. Pour reconnaître celui que j'avais perdu, mon frère Aman, l'enlacer et rire. La mer ne l'a pas dévoré. Nous sommes deux, nous sommes forts, nous sommes vivants. Pour découvrir ensemble d'autres chemins, d'autres possibles, de nouveau. Un nouveau pays, la France, et peut-être un jour un retour là-bas, Érythrée, mon Érythrée. Pour nous reconstruire une vie. Ma vie, pour me construire, Yémané, je m'appelle Yémané. Les illustrations sont très belles, elles sont à la pointe sèche, au crayon à papier. Il y a beaucoup d'oiseaux et de feuilles d'arbres qui volent dans ce livre. Et ça se termine par une lettre. Cher père, chère mère, j'espère que ma lettre atteindra le petit port de Zoula et vous trouvera en bonne santé. Aman et moi sommes arrivés en France. Ce sera sans doute la fin de notre voyage. Nous n'irons pas jusqu'en Angleterre comme vous le souhaitiez, mais la France semble être un bon pays et l'espoir d'obtenir bientôt des papiers officiels avec un vrai tampon nous redonne confiance. Nous dormons dans un centre qui appartient à une association humanitaire. S'il y a ici des gens qui nous regardent comme des rats du désert, d'autres nous sourient comme à des frères. Notre route a été difficile. 4 mois de peur, de faim et de fatigue. À pied jusqu'à la frontière du Soudan, cachés dans un vieux camion entre les caisses remplies de poules. En Égypte, nous avons évité de justesse les coups des passeurs, trafiquants d'êtres humains, grâce à l'argent que toute la famille nous a donné. Mais nous n'avons pas échappé à l'horreur de voir d'autres jeunes se faire battre et torturer. Puis, ce fut la tente dans le camp d'Itsats. Des nuits passées sous la tente, à organiser notre fuite pour l'Italie, des nuits à espérer, à craindre, à douter, et enfin à y croire. Beaucoup de réfugiés ont essayé de nous dissuader de continuer le voyage. La traversée de la Méditerranée, c'est une mort certaine, a rapporté un réfugié du Soudan. Mais votre bénédiction nous a protégés. Nous avons quitté le camp par une nuit très sombre. En silence, nous nous sommes faufilés jusqu'aux portes du désert où nous attendait notre passeur. Le dernier, il n'a pas dit un mot, que tendu la main pour avoir son argent. J'ai aussi dû lui laisser la petite médaille en or que tu m'avais donnée pour nous porter chance. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, ma chère mère. Mais c'était ça, ou rester sur la rive, sans plus d'espoir. Et c'est vrai, elle nous a porté chance. Nous avons embarqué dans un vieux rafio Il pliait et craquait sous sa charge d'êtres humains, mais la mer ne nous a pas trouvés à son goût et nous a recrachés sur une plage d'Italie. La mer nous a séparés, Aman et moi, pour un moment. Je suis arrivée le premier au camp de réfugiés à l'autre bout de la France, grâce à un gentil routier qui semblait s'ennuyer. Aman m'a rejoint un peu plus tard, en faisant du stop de ville en ville. Maintenant, nous découvrons Calais. Il pleut beaucoup et il fait froid. Mais il y a aussi des rires. Et surtout, nous mangeons à notre faim. Et puis, on nous apprend le français. C'est une langue très élégante qui te ferait beaucoup rire, cher père. Quand nous aurons nos papiers, une dame a dit que nous pourrons nous former et étudier. Je te le promets, maman, Aman deviendra un grand médecin et moi, j'aurai mon restaurant. Je ferai des ragoûts de poulet et de pois chiches comme ceux que tu cuisines les jours de fête et qui embaument l'air pendant une semaine. Alors, vous pourrez être fiers de nous. Nous reviendrons, je vous en fais le serment, je ferme les yeux et je vois mes sœurs, ma chèvre et le ragoût qui mijote lentement sur le feu. J'en salive presque, que Dieu nous vous garde d'ici là. Yémané, votre fils qui vous aime. Voilà, c'était la lettre et le livre d'après son histoire. Un instant de silence de Florence Jenner-Metz, illustré par Juliette David. Nous continuons avec Thomas Pithiot, Mouais, Mouais.
Yes, I. On m'a dit, c'est la petite souris qui vient mettre 2 euros sous ton oreiller quand ta danse est envolée. Pourquoi pas si la petite souris n'a que ça à faire, qu'elle ne dort pas la nuit, qu'elle en a marre du gruyère. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. On m'a dit, c'est le Père Noël qui passe par la cheminée, qui met des cadeaux à côté de tes souliers. Pourquoi pas si le Père Noël n'a que ça à faire, qu'il ne dort pas la nuit et qu'il a le goût du mystère. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. On m'a dit, c'est le marchand de sable qui vient mettre dans tes yeux du sable magique pour que tu t'endormes mieux. Pourquoi pas si le marchand de sable n'a que ça à faire, qu'il ne dort pas la nuit et qu'il salit pas mes affaires. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. On m'a dit. On m'a dit, c'est les cloches de Pâques qui viennent déposer des œufs bien cachés chez toi, comme les poules en chocolat. Pourquoi pas si les cloches de Pâques n'ont que ça à faire, qu'elles ne font pas ding dong printemps, été, automne, hiver. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. Mouais, mouais, c'est bien ce que je croyais. Mouais, mouais. On m'a dit, 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 on m'a dit. On m'a dit, 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 on m'a dit. On m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça. On m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça. On m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça. On m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça, on m'a dit tout ça. On m'a dit, 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 on m'a dit. On m'a dit, 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 on m'a dit.
Ouais, c'est bien ce soyez.
Voilà, Thomas Pithiot, le deuxième disque pour enfants de ma connaissance qui s'appelle La Reine des Patates, paru en 2023, distribué par l'autre distribution. Nous continuons avec le thème migration, exil, exode. La roulotte de Zoé, c'est un album des éditions des éléphants, un album qui coûte 14 euros, qui est paru il y a déjà un peu tout petit moment, 2015. Voilà, 2015. La quatrième de couverture. Il était une petite fermière qui, chassée de sa maison, trouve refuge dans une petite roulotte de bois. Quand au premier frimas, l'écureuil frappe à sa porte, Zoé lui ouvre ses bras et son cœur. À chaque nouvel arrivant, on se serre un peu, mais on est plus heureux. La roulotte de Zoé de Claude Clément, illustrée par Magali Dulin. Il était une fois, dans une minuscule chaudière, une toute petite fermière, elle s'appelait Zoé. Comme jardin, elle ne possédait qu'un carré, avec trois plants de tomates, trois rangées de patates et une touffe de thym. Elle vivait là avec une chevrette et un chat. Et elle se disait tout bas, « Comme on est heureux, tous les trois !» Un jour, des messieurs de la ville vinrent lui annoncer, « Nous allons construire une grande route avec un immense pont pour faire passer de gros camions qui apporteront des provisions à tous les gens de la région. Votre maison gêne nos plans. Prenez cet argent et allez-vous-en !» La petite fermière comprit qu'elle n'avait pas le choix et après avoir cueilli quelques tomates, quelques patates, quelques brins de thym dans son jardin, elle s'en alla, car suivie de sa chevrette et de son chat, le cœur plus lourd que son cabas. Tant que dura la belle saison, elle vécut dans les bois, se nourrissant de quelques tranches de tomates, faisant griller quelques patates, buvant le lait de sa chevrette, cueillant des baies aux branches des buissons et dormant contre son chaton. Confiante, elle soupirait tout bas. « Nous ne sommes pas si malheureux que ça du moment qu'on est tous les trois. » Et elle repartait caca sur les sentiers avec son cabas, son bras suivi de sa chevrette et de son chat. Quand vinrent l'automne et ses frimas, elle se mit à chercher un toit. Seulement des toits, il n'y en avait pas tant que ça. Certains étaient plus troués que de vieilles passoires rouillées. D'autres surmontaient des châteaux délabrés aux salles humides et hantées. D'autres encore servaient de gîte aux sangliers qui n'aimaient pas être dérangés. Un jour pourtant, Zoé dénicha une drôle de roulotte en bois, abandonnée au bout d'un chemin qui ne menait à rien. Et elle s'y installa à l'abri des frimas, avec dans son cabas quelques poignées de châtaignes et de noix. Le lait de sa chevrette lui permit de fabriquer quelques petits fromages ronds. Elle cuisina des champignons et se sentit plus à l'aise en écoutant les doux ronrons de son chaton. Elle songea encore une fois, « On sera presque bien là, tous les trois. » Bientôt, elle entendit des grattements dans son modeste appartement. Elle se pencha et sous un banc, elle aperçut un écureuil qui entassait ses provisions dans un creux de la cloison. « Laisse-moi habiter chez toi, je ne te dérangerai pas. Nous partagerons mes noisettes et nous nous régalerons, » dit l'écureuil d'une petite voix. Et la fermière le garda là, en recommandant à son chat de surtout ne pas le chasser, encore moins de le manger, puis elle dit d'un ton joyeux, « Eh oui, tous les quatre, nous vivrons mieux. » Un matin, Zoé fut éveillée par des gloussements apeurés. C'était une poulette à demi déplumée, échappée d'un poulailler, fuyant la hache du fermier qui lui lança très effrayée. « Oh, permets-moi de me cacher, je t'offrirai des œufs bien frais. » Ainsi, en plus des châtaignes, des champignons, des noix, des fromages ronds, des noisettes, Zoé put cuisiner des omelettes en murmurant pas trop inquiète. « À cinq aussi, on a réussi à calmer bien des appétits. » Quand vinrent l'hiver et la froidure, la vie devint un peu plus dure. La neige entoura la roulotte et Zoé n'avait pas de bottes. Elle dut vivre alors enfermée avec tous les animaux bien entassés. Ensemble, ils se tinrent chaud, en attendant qu'il refasse beau. Ils s'ennuyaient un petit peu. Heureusement qu'un soir, une hulotte vint se percher sur sa roulotte et leur raconta des histoires jusqu'à ce qu'il fasse noir. En s'endormant, Zoé soupira. Même si dehors il fait très froid ici, c'est douillet comme ça. Au printemps, un hennissement fit sursauter les habitants de la fragile habitation. C'était un vieux cheval de trait qui, abandonné dans un pré, cherchait à se rendre utile. Zoé aussitôt l'attela et la roulotte sur le chemin s'ébranla. Partir ? Où ça ? Même Zoé ne le savait pas, mais il la suivait à petits pas, ces animaux. K1, K1. Ils arrivèrent sur la place d'un village où un cirque pliait bagages. Sur les pavés, seuls et désolés, une jeune otarie pleurait. Gentiment, Zoé questionna : « Mais qu'as-tu ? Pourquoi pleures-tu ? » « Je ne sais ni sauter, ni jongler, c'est pour ça qu'on m'a renvoyée. »« Oh, mais tu es vraiment rigolote avec ton nez rouge et ta culotte. Viens donc avec nous dans ma roulotte. » Et la petite troupe changea d'endroit en trottinant K1, K1. Ensemble, ils parcoururent des rues, des chemins, des sentiers perdus. Ils avançaient sans savoir où et en campant un peu partout, donnant des représentations, amusant filles et garçons, jeunes enfants et vieilles gens. Qu'il fît très bon ou très mauvais temps. Les années ainsi s'écoulèrent et un jour, l'ancienne petite fermière se dit, en prenant un repas sous un merveilleux arc-en-ciel avec ses fidèles amis à plumes, à fourrures et à elle, des cœurs unis dans un cabas créent du bonheur où que ce soit, sous un toit ou au creux d'une coquille de noix ou dans une roulotte en bois. Et nous, ça nous va comme ça. Voilà, c'est la fin de l'histoire, la roulotte de Zoé, aux éditions des éléphants, par Claude Clément, illustré Magali Dulin. Des très fraîches illustrations. Thomas Pithiot, La Reine des Patates. Nous allons continuer avec le quatrième titre, Manger des artichauts.
Manger des artichauts, ça c'est chaud, c'est très compliqué. Manger des artichauts, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Manger des artichauts, ça c'est chaud, c'est très compliqué. Manger des artichauts, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Nous on a l'impression qu'on passe plus de temps à bosser, alors que normalement on est là pour se régaler. Manger un artichaut c'est un peu comme faire ses devoirs, et en plus on te dit si tu finis pas tu vas voir. Manger des artichauts, ça c'est chaud, c'est très compliqué. Manger des artichauts, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Il paraît que dans la vie, il faut toujours faire des efforts. Quand t'apprends la musique, mais aussi quand tu fais du sport. Manger un artichaut, c'est à chaque fois une aventure. C'est bien plus compliqué que de manger de la confiture. Manger des artichauts, ça c'est chaud, c'est très compliqué. Manger des artichauts, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Il y a tellement de feuilles comme dans un livre sans images. Parfois c'est un peu comme si on faisait du jardinage. Quand tu manges l'artichaut, attention à ce que tu touches. Tu peux te retrouver avec des poils dans la bouche. Manger des artichauts, ça c'est chaud, c'est très compliqué. Manger des artichauts, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Quand je mange l'artichaut, je pars pour une chasse au trésor. Je suis le chevalier qui prend d'assaut le château fort. Manger un artichaut, c'est comme terrasser un dragon ou chercher à savoir ce qu'il y a dans un tourbillon. Hey, manger des artichauts, ça c'est chaud, c'est très compliqué. Manger des artichauts, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Manger des artichauts. Manger des artichauts. Et même si à chaque fois on connaît la fin de l'histoire, on peut pas s'empêcher de vivre ça comme une victoire. C'est la fin du voyage, la récompense du travailleur, quand l'artichaut décide enfin de vous offrir son cœur. Manger des artichauts, on est chaud, on est super
manger des artichauts.
On est chaud, on est chaud.
Manger des artichauts.
On est chaud, on est super chaud.
Manger des artichauts.
On est chaud, on est chaud.
Manger des artichauts.
On est chaud, on est super chaud.
Manger des artichauts.
On est chaud, on est chaud.
Manger des artichauts.
On est chaud, on est chaud.
Manger des artichauts.
Voilà, c'était le deuxième disque de Thomas Pithiaud pour les enfants, enfin deuxième disque de ma connaissance, La Reine des Patates. Et nous allons continuer dans Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme, la radio pour tous, petits et grands, enfin, surtout dans Des cailloux dans l'engrenage. 89.4. Continuons avec Massamba, le marchand de Tour Eiffel, chez Gallimard Jeunesse. L'autrice est très connue dans la littérature jeunesse, c'est Béatrice Fontanelle. Et l'illustratrice s'appelle Alexandra Huard. C'est paru, ça vaut 15 €. C'est paru avec le soutien d'Amnesty International chez Gallimard Jeunesse. Un grand album. Massamba, le marchand de Tour Eiffel. Pas de la Tour Eiffel, marchand de Tour Eiffel. Vous savez, ces petites Tour Eiffel en plastique que des marchands étalent sur un morceau de tissu sur le trottoir. Arrivé à Paris, au terme d'un voyage éprouvant, Massamba doit s'improviser marchand de souvenirs pour touristes quand il découvre en vrai la Tour Eiffel dont il a tant entendu parler. Quel choc ! Devant lui, elle s'élance, phénoménale, telle une fusée d'acier qui transperce les nuages. Vendre des Tours Eiffel miniatures sous la grande, au début, il trouve ça trop fort. Mais il doit rester aux aguets. Voilà, c'est la présentation de la quatrième de couverture qui continue avec un petit mot d'Amnesty International. Un album magnifique et sensible qui nous permet d'être au plus près de celles et ceux qui doivent prendre les routes de l'exil. Alors, qui sont les autrices ? Elles ont déjà publié deux albums ensemble, Béatrice Fontanelle et Alexandra Huard, La chose chez Sarbacane et Je suis la méduse des éditions des Fourmis Rouges. Elles partagent une passion et une immense admiration pour l'Afrique, enfin le continent africain. Alexandra Huard se rend régulièrement au Bénin où elle a trouvé l'inspiration pour le personnage de Massamba. Très sensibles au sort des immigrés, toutes les deux signent un album qui leur tient particulièrement à cœur. Alors, ce que dit la feuille de presse, c'était déjà en 2018, c'est un album pour sensibiliser les enfants à la cause des réfugiés, une écriture ciselée empreinte d'humour et d'espoir, deux auteurs engagés, une œuvre de création. Les feuilles de presse quelquefois ne cassent pas trois pattes à un canard. Ensuite, eh bien, je vais vous le lire, ce livre Massamba, le marchand de Tours Eiffel. Dans une grande pirogue, Massamba était monté avec d'autres hommes et quelques femmes. Ils étaient si encaqués qu'ils ne pouvaient plus bouger un genou. Massamba n'avait jamais vu la mer. Il ne connaissait que le grand fleuve, tout proche de son village. Devant tant d'eau, il cherchait la rive en face. Mais il n'y en avait pas. À la nuit tombée, pendant que les gardes-côtes regardaient un match de foot à la télé, le bateau mit le cap vers la haute mer. Il filait, poussé par son vieux moteur à fistolet. Les poissons volants jaillissaient des eaux et luisaient sous la lune. Mais la houle était forte et Massamba eut aussitôt très mal au cœur. Ô esprit de mes ancêtres, qu'ai-je fait? Je suis malade à mourir, gémissait-il. Au bout d'une heure, le prétendu capitaine les abandonna à leur sort. Il monta dans une barque qui les suivait depuis le départ et, désignant l'obscurité profonde, il dit « Voilà la France, c'est par là !» Et il s'en alla. Le lendemain, une tempête se leva. La pirogue était ballottée, prenait l'eau de tous côtés. « Écopez avec les seaux !» cria une femme. Mais la plupart des passagers hurlaient en s'agrippant à la pirogue. « Oh, esprit de mes ancêtres, protégez-moi, je vous en prie, supplia Massamba. » Mais les ancêtres n'entendirent rien du tout parce que, d'un seul coup, le bateau se retourna. Heureusement, les naufragés n'étaient plus très loin de la côte. Accroché à un jerrican vide qui lui servait de bouée, Massamba nagea de toutes ses forces. Par chance, les vagues le poussèrent jusque vers le rivage. Il se jeta sur le sable pour reprendre son souffle et ne s'aperçut même pas qu'il avait perdu ses sandales. Dans une langue qu'il ne connaissait pas, une dame en maillot de bain lui proposa sa bouteille d'eau qu'il but d'un trait. « Pobrecito !» dit la dame. « Il se trouve qu'il était arrivé en Espagne. » Elle l'installa à l'ombre de son parasol, mais des hommes en uniforme surgirent et les emmenèrent, lui et ses compagnons, dans un camp sans arbres et plein de cailloux qui lui blessaient les pieds. Il se fabriqua alors une paire de tongs en aplatissant deux bouteilles de plastique. Ce n'était pas très confortable, mais Massamba avait d'autres soucis. Il se demandait combien de temps il allait rester là. Massamba s'ennuyait ferme. Il passait le temps en se promenant le long des fils barbelés du camp. Un jour, il vit un paysan qui labourait son champ avec un tracteur merveilleux. « Oh, esprit de mes ancêtres, pourquoi n'avons-nous pas de telles machines au pays ?» Mais les ancêtres ne répondirent pas. Sans doute ne savait-il pas trop quoi répondre. L'homme vit que Massamba l'observait. Il descendit de son engin, s'approcha de lui et lui montrant du doigt ses tongs en bouteille de plastique. « Que tal hombre tienes un agujero en el zapato ?»« Tu as un trou dans ta chaussure ?» Le lendemain matin, l'homme revint pour lui donner une paire de godillots. Un peu usé, certes, mais pas trop. Muchas gracias, dit Massamba, qui au fil des mois avait appris un peu d'espagnol. Avec des souliers aussi solides, il arriverait sûrement au bout de son voyage à Paris. C'est là qu'il voulait aller pour trouver du travail. Dans ses godillots, il avait même la place de cacher son argent. Des billets cousus jusque-là dans son pantalon qui commençait à se déchirer. C'était bien commode. Massamba se demanda tout de même comment il allait pouvoir poursuivre son périple. Une nuit, alors qu'il ne dormait pas, il vit plusieurs hommes sortir du grand dortoir en silence. Massamba leur emboîta le pas dans les collines. Hérissés de plantes épineuses, ils coururent longtemps. Massamba était content d'avoir aux pieds de bonnes chaussures. Enfin, ils s'arrêtèrent près d'un camion garé au bord d'une route déserte. Les hommes donnèrent de l'argent au conducteur et montèrent à l'arrière du camion. Ils se glissèrent dans une cachette étroite. Ils étaient entassés là-dedans comme des sardines dans leur boîte. Il y avait peu d'air. Il faisait chaud. Après deux jours de route, Massamba n'en pouvait plus. Il suffoquait. « Oh, esprit de mes ancêtres, sortez-moi de là, s'il vous plaît, sinon je vais décéder, murmura-t-il, la bouche toute sèche. » Cette fois, les ancêtres durent l'entendre, car aussitôt le camion s'arrêta, la trappe s'ouvrit, tous descendirent et respirèrent à plein poumon l'air frais. De Paris, ils étaient arrivés enfin. Ils s'installèrent dans un foyer où vivaient d'autres Africains. En arrivant, ma samba sentit des odeurs épicées de Tieppe et de Maffé, la bonne cuisine de son pays, et cela lui serra très fort le cœur. Le lendemain matin, avant le lever du jour, ils marchèrent longtemps pour arriver dans un entrepôt. Là, ils rencontrèrent M. Chang, un vieux Chinois qui leur donna, contre quelques billets, plusieurs gros sacs. À l'intérieur, grouillaient des quantités de tours Eiffel de toutes les tailles, Massamba compris qu'il fallait aller les vendre. La tour Eiffel, la vraie, il en avait déjà entendu parler, bien sûr. Il l'avait même vue une fois sur une carte postale envoyée par un de ses cousins. Avec ses compagnons, il prit le métro pour la première fois de sa vie. Ils sortirent à la station Trocadéro, il aimait bien ce mot Trocadéro, et là, sur un grand parvis, quel choc ! Devant lui s'élançait vers le ciel, phénoménal, une fusée d'acier qui transperçait les nuages. La tour Eiffel en personne ! Massamba trouvait ça trop fort, vendre des tours Eiffel, miniatures sous la grande. Sur un morceau de tissu bariolé, il rangea ses tours, mais à peine avait-il fini qu'il entendit un cri suivi de plusieurs coups de sifflet. Il vit que ses camarades, en un tour de main, avaient ramassé leurs marchandises et partaient en courant. Massamba fit exactement pareil. Surgit alors une brigade de policiers en vélo et qui roulait à toute vitesse pour les rattraper. Massamba venait d'apprendre que la vente à la sauvette sur les trottoirs de Paris s'était tout à fait interdit. « Ô esprit de mes ancêtres, aidez-moi à leur échapper, implora-t-il tout en plongeant dans un buisson. » Au bout d'un moment, l'alerte passée, il sortit de sa cachette prudemment. Les autres revenaient aussi, réinstallant leur babiole, surveillant les alentours. Massamba réussit à vendre plusieurs porte-clés à des touristes. Mais les policiers vélocipédistes réapparaissaient souvent. Il fallait à nouveau prendre ses jambes à son cou. « Oh là là, esprit de mes ancêtres, ce n'est pas une vie ça !» se dit Massamba, tout essoufflé. Il fallait constamment être aux aguets. Il eut alors l'idée d'inventer un ingénieux système de ficelles qui passait dans les coins du tissu et permettait de tout remballer en une seconde. Ses compagnons et lui rentraient le soir épuisés, les pieds gonflés. Au bout de quelques semaines, il se mit à faire très chaud. Massamba échangeait parfois un petit porte-clés contre une des bouteilles d'eau fraîche que vendait son voisin de trottoir, un Pakistanais. Massamba parvenait malgré tout à vendre beaucoup de tours Eiffel. Il retournait souvent voir M. Chang. « Bonjour !» disait Massamba en pénétrant dans l'entrepôt, parce que cela l'amusait beaucoup d'apprendre à parler chinois. Là, je ne vous... Il y a un petit... Il y a des petits textes en chinois, mais je ne... je ne sais pas comment on dit. Puis vint l'automne et l'hiver, que Massamba ne connaissait pas personnellement, mais dont il avait aussi entendu parler. « Oh, esprit de mes ancêtres, se lamentait-il, est-ce possible qu'il fasse si froid ?» La nuit, alors, arrivait plus tôt. Et un soir, la neige se mit à tomber, quand la véritable tour Eiffel, mère de toutes les autres, se mettait à scintiller, prise de subites démangeaisons électriques, c'était comme s'ils étaient enfermés dans une boule de verre géante contenant Paris tout entier. « Oh, esprit de mes ancêtres, comme c'est beau !» se dit Massamba en claquant. C'était difficile, cette vie. Pourtant, il ne perdait pas espoir. Il avait pris l'habitude de vanter sa marchandise en souriant, tout en surveillant les alentours au cas où la police surgirait. Il avait développé ainsi une sorte de sixième sens pour détecter tout ce qui pouvait se passer d'inhabituel autour de lui. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il devint un beau jour un véritable héros. Un après-midi, Alors qu'il secouait ses grappes de tour Eiffel, porte-clés, passées sur un anneau, comme les musiciens de son pays agitent leur sonaille, il vit une petite fille, pas plus haute que trois calebasses, s'éloigner un peu de sa mère et se mettre à traverser. Un moment précis où un autobus arrivait. Malgré le danger, il bondit comme un léopard pour arracher l'enfant aux roues du bus in extremis. Des passants poussèrent des cris. La mère se précipita vers la fille que Massamba venait de déposer sur le trottoir. Lui avait encore les pieds dans le caniveau. Le bus ne parvint pas à l'éviter et le projeta sur la chaussée. « Aïe, 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 esprit de mes ancêtres que j'ai mal !» dit-il en tenant sa jambe brisée. Un touriste tenta de repousser la foule pour le laisser un peu respirer, tandis que la mère de la petite fille appelait les secours. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard et l'emmenèrent à l'hôpital. Massamba fut bien soigné et ressortit avec un beau plâtre. « Oh, esprit de mes ancêtres, mais comment vais-je courir avec cette grosse jambe blanche pour échapper aux policiers vélocipédistes ?»« Eh bien, vous ne le devinerez jamais. » Il se trouve que, par un hasard extraordinaire, le père de la petite fille était chef cuisinier du restaurant de la Tour Eiffel. Après toutes sortes de démarches, il obtint un travail au sauveur de sa petite fille. Depuis ce temps, avec son splendide nœud papillon, Massamba accueille les clients du monde entier. Welcome, bienvenue, benvenido. Puis aussi en chinois, mais là, je ne sais pas comment on dit, leur lança-t-il en répétant son fort intérieur. Ô esprit de mes ancêtres, est-ce que vous auriez imaginé ça? Et voilà, c'est fini. C'est publié en partenariat entre Gallimard Jeunesse et Amnesty International. Un peu de Thomas Pithiot, la suite, le cinquième titre qui s'appelle « Camille ».
Le seau d'eau glacée, Camille n'arrive pas toujours à se réveiller. Il lui faut, pour aller à l'école, un concert de casseroles. Au petit déjeuner, Camille a beau avaler des céréales, du jus d'orange pressé, pas de bol, car tout le monde rigole de sa démarche molle. Alors autour de lui, c'est plutôt rock and roll. Mais pourquoi la vie est si dure pour un rêveur? Mais pourquoi le monde avance à 100 à l'heure? Bien installé tout au fond de la classe, Camille se repose, Camille se prélasse. Il se dit que la chaise et la table, c'est pas très confortable. Il préférerait son petit lit douillet, attraper ses rêves avec un filet, libérer les poèmes et les fables coincés dans son cartable. Faire la sieste quelque part au soleil, allongé sur le sable. Mais pourquoi la vie est si dure pour un rêveur? Mais pourquoi le monde avance à 100 à l'heure? Avant de faire l'appel, la maîtresse présente aux élèves la nouvelle. Il s'agit d'une jolie petite fille, son prénom c'est Camille. Elle la l'accompagne jusqu'à sa nouvelle place. Joli hasard, c'est au fond de la classe, à côté de ce petit garçon qui porte le même prénom. Elle s'endort sur sa petite épaule à la première leçon. Maintenant, la vie est plus douce pour un rêveur.
C'était Thomas Pythiot, le CD La Reine des Patates, paru l'année dernière, en 2023. Nous continuons avec une petite pause philo. Petite pause philomino, c'est la collection d'Alice Brière Haquet aux éditions Trois Oeils. Et là, il s'agit du Loup de Hobbes. Hobbes, le philosophe, H-O-B-E-S. De quel loup nous protège la vie en société? Hobbes, philosophe du XVIIe siècle, va te l'expliquer. Alors ici, le livre est orange. Il y a toujours un trou dans la couverture qui présente un dessin de la page de garde. Et là, c'est donc un loup. Et les illustrations sont de Herbera. « Au loup !» cria l'enfant qui s'ennuyait. « Où sont les loups ? Qui sont-ils ?» En face, on voit deux loups avec des masques de personnes, d'humains. « Ont-ils forcément de grandes jambes, de grands yeux, de grandes dents ?» En face, l'image d'un visage qui est d'une main qui présente un bonbon. L'homme, parfois, prend d'autres hommes pour proie. L'image, c'est les jambes avec une queue de loup qui course un humain tout nu d'ailleurs. C'est pour cela qu'il y a des états, des lois, des contrats, pour ne pas faire n'importe quoi. En face, un visage aux yeux bandés, une main qui tient une balance. On abandonne son pouvoir de blesser pour vivre dans la tanière chauffée de la société. Les mots remplacent alors les armes et la langue devient la plus puissante, bien plus puissante que les dents. Aussi, si tu es en danger, crie ! Ton village, ta famille, tes amis, la société viendra t'aider. Mais prends garde au contrat. Au loup marchera une fois, deux fois. Mais si ce n'est pas vrai, si les mots perdent leur puissance, si la société ne te fait plus confiance, il ne te restera plus que tes dents et tes jambes. Voilà, c'est le loup de Hobbes. Je vais vous lire l'entretien qu'Alice Brière Haquet a fait par rapport à cette très belle petite collection. On dit petite collection parce que les livres sont à peine plus grands qu'une carte postale, publiée aux éditions Trois Oeils. Et c'est pour le sixième numéro du semestriel édité par Quilombo que je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Un grand merci à elle de nous en dire un peu plus sur ces merveilleux petits livres. La collection Philonimo, et moi j'ai tendance à dire Philomino, mais non, c'est Philonimo, part d'un principe simple. mettre les plus grands noms de la philosophie entre les plus petites mains. Oui, 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 Schopenhauer en maternelle, et les sceptiques peuvent ranger leur sourire poli. Les enfants adorent. Quand j'ai entendu pour la première fois sa parabole du porc-épic, mon radar à histoire s'est immédiatement déclenché. Pour résumer, Schopenhauer nous parle de porc-épic qui ont froid l'hiver, donc se serre, mais du coup se pique, donc s'éloigne et donc ont froid. Avant de faire le parallèle avec les humains qui s'ennuient quand ils sont seuls mais ne se supportent pas en société. Mais surtout, la parabole propose une solution, la juste distance pour tenter de s'aimer sans se piquer. C'est la politesse. Ainsi, cette notion normative par essence, symbole même de la domination adulte sur l'enfant, cette notion qui se matérialise dans toutes les salles de classe par la feuille de règlement punaisée près du tableau, cette notion donc peut être interrogée. Elle sort du cadre étroit de la morale pour entrer dans le grand balancier de la vie entre la souffrance et l'ennui et tenter de l'alléger. Et des enfants de petite section qui découvrent la cour de récréation et ses diverses injonctions en comprennent parfaitement les enjeux. Je vais couper en deux ce texte avec une chanson de Thomas Pithiot. Papa finit toujours dans l'assiette.
Comme un psychopathe, engloutit mes derniers spaghettis, nous fait la cueillette aux coquillettes. Quand je finis par mon riz, papa comme un ahuri, grignote mes derniers petits grains, gravite autour de mon bout de pain. Papa finit toujours dans l'assiette de ce que nous on mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette de ce que nous on mange pas. Ma soupe, papa fait des entourloupes, il se déguise en tout petit chat, il fait miaou, il lèche le plat. Quand je finis par ma glace, papa toujours dans la place, avec sa langue de caméléon, il ingurgite mon sorbet citron. Papa finit toujours dans l'assiette de ce que nous on mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette de ce que nous on mange pas. Pour les panini et pour les pâtisseries, pour la pastilla, pâte à l'arabiata, pour les panini et pour les pâtisseries, pour la paella, pour la panna cotta, pour les panini et pour les pâtisseries, pour la pastilla, pâte à l'arabiata. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa finit toujours dans l'assiette ce que nous mange pas. Papa.
dimanche, papa. Merci, papa.
Voilà, c'était Thomas Pythiot dans son disque pour les enfants qui s'appelle La Reine des Patates, consacré beaucoup à la nourriture. Nous continuons avec l'explication de la collection Philomino par sa conceptrice Alice Brière Aquet, à l'origine de la collection publiée aux éditions Trois Oeils. Et c'est ce qu'elle a raconté au micro de la feuille numéro 6 de Quilombo. Je continue ce que j'avais commencé. C'est bien sûr sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste sur 89.4, dans Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. À partir de Schopenhauer, je me suis mise, dit Alice Brière-Aquet, à chercher si d'autres philosophes s'adressaient ainsi aux enfants. Et la réponse est oui, tous, ou presque. Chang Tse, qui rêve d'être un papillon. Épictète, qui vit dans un monde de superstition. Diogène, qui revendique le droit de faire pipi sur la place publique. C'est le monde de l'enfance qu'ils évoquent, ce moment de grandes questions et des émerveillements. Les philosophes, au fond, sont des gens qui ont réussi à devenir adultes sans oublier ce qui était vraiment important. Est-ce qu'ils peuvent à leur tour aider les enfants à devenir des adultes un peu moins fous? Sincèrement, je ne sais pas. C'est un peu lâche de placer nos espoirs sur la prochaine génération et terriblement naïf de croire que les livres peuvent sauver le monde. Mais qu'avons-nous d'autre? Des enfants et des propos intelligents. C'est ce que l'humanité a fait de mieux jusqu'à présent. Alors, autant parier dessus. Le pari est en tout cas beaucoup moins absurde que celui que fit Pascal en son temps. Et puis, il y a un autre pari qui personnellement m'intéresse. Mettre les plus grands noms entre les plus petites mains, c'est aussi une façon de confisquer le monopole de la culture aux classes dominantes. C'est instituer l'idée qu'il n'y a pas besoin d'attendre la classe terminale pour entendre le nom de Schopenhauer et pas besoin de faire cagne pour s'approprier ses idées. Cette espèce de projet démocratique qui nous anime se traduit physiquement. Des textes courts, rythmés, un format léger, des artistes représentant le meilleur de l'illustration contemporaine, avec une diversité de techniques encouragées, gravures, pochoirs, gommettes, etc. Pardon pour le côté pub, mais j'avoue que je suis particulièrement heureuse de la façon dont les éditeurs se sont emparés du projet et l'ont véritablement matérialisé. Et l'aventure ne s'arrête pas à l'objet livre. Grâce à un partenariat avec le Centre de la création pour l'enfance de Tinqueux, la parole philosophique devient jeu d'artiste, exposition, atelier, etc. Un véritable parcours dans lequel le corps de l'enfant peut s'engager et sa parole se déployer. Alors, merci à toutes et tous d'avoir cru en ce pari un peu fou. Merci aux libraires, bibliothécaires, enseignants, parents qui le portent auprès des enfants. Le prochain titre de la collection sera « L'abeille de Saint-Simon ». Il sera illustré par l'artiste Mélie Bernard, rendant hommage à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre à rendre notre monde un peu meilleur. Ainsi, j'aime à penser que nos philonymos promènent leur part de pollen. Merci à vous d'en faire du miel. Signé Alice Brière. Aquet.
Quand je serai grand, je mangerai beaucoup de piments et je serai plus fort que tous les présidents. Quand je serai grand,
je mangerai beaucoup de piment. Je rugirai comme le lion, je serai costaud comme l'éléphant. Costaud comme l'éléphant. Maman mange du piment le matin avec ses croissants. Mon papa mange du piment se brossant les dents. On m'a dit t'es trop petit pour toi, tout ça c'est très piquant. Si tu croques dedans, tu pousseras des hurlements. Je suis presque un grand garçon, je veux chanter comme un dragon, dire des mots enflammés tout en respectant le pompier.
Quand je serai grand, je mangerai beaucoup de piment et je serai plus fort que tous les présidents. Quand je serai grand, je mangerai beaucoup de piment. Je rugirai comme le lion, je serai costaud comme l'éléphant. Costaud comme l'éléphant.
Le soleil est rouge comme le sang, il est vert comme les arbres, il a la couleur du printemps. Vert, jaune, rouge, c'est le reggae. Et si toi tu sais pas ce que c'est, demande à tes parents qui était le grand Bob Marley. Sur tous les océans, sur toutes les îles et tous les continents, les gens aiment le reggae et adorent manger du piment.
Quand je serai grand, je mangerai beaucoup de piment et je serai plus fort que tous les présidents. Je mangerai beaucoup de piment, je rugirai comme le lion, je serai costaud comme l'éléphant. Costaud comme l'éléphant.
C'était donc Thomas Picchio dans le disque La Reine des Patates. Maintenant, le dernier livre, oui, que je pense avoir le temps, j'espère de le terminer, sur les grands exodes, une très connue, la légende du Ouagadou Bida. D'après la tradition orale soninké, le texte est de Modibo Sidibé, les illustrations de Svetlana Amegangpo. Et ça, c'était édité aux éditions Donia en 1999 à Bamako, Mali, bien sûr. Les soninké vivent au Sahel occidental. On les rencontre au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Au Mali, berceau de leur peuplement, ils occupent de nos jours principalement les cercles de Yélimané, de Nioro, de Diéma, de Nara et de Kaï. Et là, je fais une parenthèse. Kaï, eh bien, Montreuil était, paraît-il, la plus grande ville soninké après Kaï. Montreuil, en région parisienne. Historiquement, cet espace appartenait à un empire appelé Ghana par les écrivains arabes. La tradition malienne le désigne par Ouagadou. Ce fut le premier empire noir connu en Afrique occidentale. Ses débuts remontent au IIIe siècle. Sa capitale était Koumbi Salé. Les soninké sont les fondateurs de l'empire du Ouagadou. Ils vivaient de l'agriculture, d'artisanat et surtout de commerce. L'artisanat s'était développé à partir des mines d'or, d'argent et de fer. Le commerce s'était ouvert sur le Maghreb et des courants d'échange se créaient avec la forêt guinéenne qui possédait d'importantes ressources minières. Ce commerce transsaharien dura plus de 700 ans, 7 siècles. Avant l'arrivée de l'islam, vers le 7e siècle, les habitants du Ouagadou étaient animistes. Ils adoraient plusieurs divinités. La plus célèbre était un dieu serpent, appelé le serpent Ouagadou Bida. Et voici son histoire. En Afrique de l'Est, il y a longtemps, très longtemps, dans la région située entre le désert de sable et la forêt tropicale, vivait un dieu serpent appelé Ouagadou Bida. Il était le fils d'un grand chef du pays et sa mère était la fille d'un génie. Oui, cette histoire contient beaucoup de merveilleux, comme dans tous les pays du monde. Je reprends. Il était le fils d'un grand chef et sa mère, la fille d'un génie. Il avait le corps d'un gigantesque python surmonté d'une tête effrayante. Un pacte sacré le liait aux populations du Ouagadou et surtout de la famille royale. Ce pacte assurait une vie paisible et prospère aux populations. Le Ouagadou Bida habitait une grotte soigneusement entretenue par les grands prêtres du royaume. Son sanctuaire était protégé par le roi, où il était interdit d'y pénétrer sous peine de mort. Le culte du serpent Bida était célébré dans une forêt sacrée. Une fois par an, une fête grandiose était organisée au cours de laquelle on lui offrait en sacrifice la plus belle jeune fille de l'empire. En remerciement, le serpent faisait tomber 5 pluies, arrosant généreusement la terre d'eau et d'or. Les habitants du Ouagadou n'avaient plus qu'à ramasser le précieux métal sur le sol fertile. Les anciens choisissaient la jeune fille en consultant les devins sur ses chances de satisfaire l'attente du Ouagadou Bida. Quand le choix était arrêté, personne ne pouvait le contester que l'élu fût fille du roi ou fille de pauvre. Cette tradition était respectée depuis si longtemps que même les plus vieux ne se souvenaient plus du premier sacrifice. La cérémonie se déroulait toujours selon le même rituel. Guidée par les prêtres en grande tenue, la jeune fille choisie, parée de ses plus beaux habits et de ses bijoux les plus précieux, était conduite par le peuple en liesse devant la grotte sacrée. Une fois entrée dans la demeure du serpent, elle n'en ressortait plus jamais. Malgré leur peine, les parents se sentaient honorés du sacrifice de leur fille, convaincus qu'il ferait le bonheur du peuple soninké. Le serpent Bida répandait ainsi richesses et bienfaits sur le royaume. La prospérité du Ouagadou, grâce à l'or qu'on trouvait en abondance, dépassait les frontières de l'empire, ce qui valait au roi le nom de « roi de l'or » et au pays le nom de « pays de l'or ». Cette richesse se voyait partout, les vêtements brodés, les tresses du roi Tunka, les boucliers en cuir et les épées des gardes et même les étoffes qui recouvraient les 1000 chevaux de l'écurie royale étaient d'or. Chaque cheval se couchait sur une natte et portait au cou à la patte des rubans en soie. 3 personnes étaient à son service, une pour la nourriture, une pour la boisson et une autre pour la toilette. Les chiens de garde qui veillaient à l'entrée du palais portaient des colliers et des grelots en or et en argent. Tous les matins, le cortège du roi, précédé par des éléphants et des girafes, faisait le tour de Kumbi, la capitale. Chacun pouvait s'adresser directement au roi pour lui soumettre une doléance aussitôt satisfaite. Les habitants avaient le sentiment de vivre au paradis. Il y avait en plus de l'or d'abondantes ressources en eau, en bois, en bétail et en pâturage. Le roi Tunka dominait plusieurs royaumes et provinces qui lui payaient des impôts. L'armée de l'empire comptait 200 000 guerriers courageux, dont 40 000 archers très adroits. Le roi vivait dans l'opulence et en grand patriarche, invitait souvent des centaines de ses sujets à dîner. Une nourriture variée et abondante était servie dans des plats en or. Même les servantes portaient des bijoux de ce précieux métal. Voilà pourquoi le serpent Bida, symbole du pouvoir de la famille royale, dieu protecteur du peuple soninké de leur pays, était autant respecté. une petite pause avec Thomas Pithiot.
Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Tu n'oserais pas faire ça avec l'éléphant. L'éléphant, ça a des défenses et ça se défend. Tu n'oserais pas faire ça avec le lion. Le lion, ça peut rugir et puis ça fait des bons. Tu n'oserais pas faire ça avec le serpent. Le serpent, ça a des crocs et puis ça peut faire pan. Tu n'oserais pas faire ça avec le chameau. Le chameau te fait des bosses comme il a sur le dos. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Tu n'oserais pas faire ça avec la panthère. La panthère peut te griffer et te mettre par terre. Tu n'oserais pas faire ça avec le lama. Le lama est susceptible et peut cracher sur toi. Tu n'oserais pas faire ça avec la méduse. La méduse peut te brûler si vraiment tu abuses. Tu n'oserais pas faire ça avec la souris. La souris, ça peut faire peur même si c'est tout petit. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Tu n'oserais pas faire ça avec la maîtresse. La maîtresse, ça peut punir quand les enfants la stressent. Tu n'oserais pas faire ça avec la maîtresse. La maîtresse, ça peut punir quand les enfants la stressent.
Avec la maîtresse, tu n'oserais pas, tu n'oserais pas. Avec la maîtresse, tu n'oserais pas faire ça. Avec la maîtresse, tu n'oserais pas, tu n'oserais pas. Avec la maîtresse, tu n'oserais pas faire ça. Avec la maîtresse, tu n'oserais pas. Avec la maîtresse.
Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, elle t'a rien fait. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, sauf qu'il t'a rien fait. Bonhomme, pourquoi t'as pris comme ça sur la girafe? Sauf qu'il t'a rien fait, elle t'a rien fait.
Voilà Thomas Pithiot qui chantait Sophie la girafe, ce jouet en plastique qui couine depuis des générations et que paraît-il est plein de produits toxiques et de perturbateurs endocriniens. Mais enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Nous revenons sur Radio Libertaire dans Des cailloux dans l'engrenage à la légende du Ouagadougou-Bida, légende du Mali. Tout allait bien au Ouagadou jusqu'au jour où une jeune fille appelée Sia Yatebari fut choisie pour le sacrifice annuel. Elle était d'une éclatante beauté. Depuis longtemps, sa renommée avait fait le tour de l'Empire. Chaque soir, sur la place publique, au clair de lune, elle dansait en chantant d'une voix de cristal qui dominait les cœurs entonnés par ses camarades. La grâce de sa danse fascinait les spectateurs qui l'admiraient. Les joueurs du gros tam-tam saluaient son apparition par des battements réguliers, particuliers, des battements particuliers. Les applaudissements et les you-you des spectateurs émerveillés s'entendaient dans toute la ville. Le choix des anciens semblait juste car Sia était sans aucun doute la plus belle fille de l'Empire. Elle était fiancée et l'heureux élu s'appelait Amadou Sakho. Excellent cavalier, il venait de gagner son cœur après une concurrence acharnée avec d'autres prétendants. C'était une rivalité traditionnelle précédant les fiançailles en milieu soninké. Il ne suffisait pas d'être le plus riche ou le plus beau, il fallait aussi être le plus courageux, le plus fort ou le plus patient. Amadou parlait très peu et c'est pourquoi on l'avait surnommé Amadou s'est fait de côté, qui parle peu. C'est justement son silence qui avait séduit la belle Sia. Les deux jeunes gens s'aimaient passionnément et attendaient la célébration de leurs noces. Ainsi, lors des fêtes de la jeunesse soninké, après chaque danse, Sia déposait l'écharpe de l'amour sur les larges épaules d'Amadou. Leur famille préparait le mariage et la vie semblait leur sourire. C'est à cette époque que le choix des anciens se porta sur Sia. Les jeunes amoureux furent bouleversés par la nouvelle, mais le grand prêtre parvint cependant à convaincre Sia de se soumettre au sacrifice. Elle accepta le don de sa personne pour assurer la prospérité de son pays et de son peuple. Dans l'attente du jour fatal, elle se préparait courageusement à l'épreuve. Elle pensait tendrement à Amadou et pleurait doucement sur son sort et sur leur avenir brisé. De son côté, Amadou refusait la décision des anciens. Malgré sa bonne volonté, il trouvait ce choix injuste et inhumain. Lui, si calme d'ordinaire, sentait sa colère l'envahir chaque fois qu'il imaginait sa fiancée livrée en offrande au serpent Bida. Mais il cachait sa douleur à tout le monde. Pendant ce temps, le peuple de Koumi préparait fiévreusement le culte annuel. Le jour fatidique arriva. Koumbi était en fête. Des musiciens venus de toutes les provinces charmaient les oreilles des convives qui se régalaient de nourriture et de boissons à profusion. Dans une chambre du palais royal, les femmes de la cour préparaient la belle Sia à sa rencontre avec le dieu serpent. Après un bain parfumé, on l'habilla d'une longue tunique blanche. Son abondante chevelure fut coiffée minutieusement en 100 tresses, ornées chacune d'un anneau d'or fin. Elle fut parée de ses plus beaux bijoux et la plante de ses pieds fut joliment peinte de dessins au henné. Puis, une vieille femme lui fit boire une bouillie spéciale pour l'affaiblir afin qu'elle ne puisse résister au dieu serpent. Peu avant le coucher du soleil, le cortège s'avança au son de la musique vers la forêt sacrée. La cérémonie se déroula comme prévu. La belle Sia fut installée sur un lit recouvert de nombreuses et chatoyantes étoffes. Après avoir observé dignement le rituel, la foule satisfaite se rentra au village. Au début de la nuit, une fumée d'encens s'éleva vers le ciel. Sia reçut les derniers réconforts. Tout était prêt pour le sacrifice. Ses parents et amis lui vinrent lui dire adieu. Les prêtres quittèrent la forêt les derniers. Sia les regarda partir sans frissonner, sans gémir.
Mon petit frère est différent, il ne ressemble pas à nos parents, à nos parents. Même si mon frère est dans ma vie, je n'ai jamais vu de photo de lui, bébé petit. Ce petit homme est né ailleurs. Ça ne nous empêche pas d'être ses frères, d'être ses sœurs. Mon petit frère, en grandissant, on dit qu'il nous ressemble étonnamment, étonnamment. Et quand il porte mes anciens habits, on s'habitue gentiment l'un à l'autre, car c'est pour la vie. Que nous sommes frères, frères d'émotion, nous apprenons un peu les mêmes histoires, les mêmes chansons. Il lui arrive d'être solitaire, de penser à un autre endroit qu'ici, ailleurs sur terre. On connaît tous la vérité.
sans doute qu'un jour il voudra tout savoir, tout rencontrer. Mon petit frère est différent, il ne ressemble pas à nos parents, à nos parents.
C'était encore Thomas Pithiot. Je continue la légende de Ouagadou Bida, la légende du Mali. Dissimulé derrière les arbres, Amadou le silencieux avait attendu le départ des prêtres. Monté sur son magnifique cheval blanc, son sabre soigneusement aiguisé, il s'approcha sans bruit de la grotte du serpent. Le cœur battant, il contempla sa fiancée, calmement étendue sur son lit de mort. Dans la nuit silencieuse, les feux, allumés par les prêtres, éclairaient pour la dernière fois le doux visage de la belle Sia. Soudain, un sifflement rompit le silence. Deux yeux étincelèrent dans la nuit et Ouagadou Bida surgit de la grotte, prête à s'emparer de sa victime. La jeune fille épouvantée vit le monstre approcher. Alors, Amadou s'élança au-devant du gigantesque dieu serpent, brandit son sabre et d'un coup sec lui trancha la tête. La tête s'éleva dans le ciel et se mit à hurler « Tu as détruit le Ouagadou, ma mort sera la cause de toutes les calamités que vous n'avez pas connues tant que vous m'avez respecté. » À partir d'aujourd'hui et pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours, il ne tombera plus une seule goutte d'eau dans le Ouagadou. Vous n'y trouverez plus d'or et le peuple soninké se dispersera. Mais le combat n'était pas fini. Une autre tête apparut, qu'Amadou dut couper à nouveau, puis une autre. Sur son cheval, cabré, il s'acharna ainsi 7 fois de suite, tandis que les têtes fusaient comme des éclairs dans la nuit, en répétant « Tu as détruit le Ouagadou !» Enfin, le long corps du serpent s'effondra dans un fracas assourdissant. Amadou le silencieux fit alors monter la belle Sia sur son cheval et l'emmena très loin de là. Le vacarme de la mort de Ouagadou Bida avait retenti dans tout l'empire. À l'aube, le peuple Koumbi et son roi, stupéfaits, découvrirent la profanation. Terrifiés par l'extrême gravité du crime, ils comprirent que les conséquences seraient redoutables pour le pays et ses habitants. Amadou le silencieux avait brisé le culte ancestral et rompu le pacte qui les liait au dieu serpent. Il serait maudit pour toujours par les siens. Quand la mère d'Amadou sut que son fils était la cause de la terrible malédiction, elle jura de donner de l'eau au soninké pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours, grâce à une jarre magique et intarissable. Les 7 têtes du dieu serpent se dispersèrent hors du Ouagadou dans les régions qui devinrent à leur tour très riches en mines d'or. Le Ouagadou perdit brusquement et pour longtemps ses richesses. Avec l'or disparurent aussi l'argent, le fer et la prospérité du pays. Le peuple soninké s'inquiétait d'un avenir qui s'annonçait sombre. Les pluies qui verdissaient autrefois la terre de l'Empire s'arrêtèrent de tomber, comme l'avait prédit le serpent Bida avant sa mort. Pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours, plus une goutte d'eau ne vint arroser le sol et plus aucun nuage ne vint assombrir le ciel du Ouagadou. Les royaumes et provinces autrefois tributaires du Ouagadou en profitèrent pour proclamer leur indépendance. Le souverain impuissant vit son empire s'écrouler et ne put résister aux troubles qui venaient de tous côtés. Le peuple soninké, qui aimait éperdument son pays, fut obligé de le quitter pour survivre ailleurs. Par centaines de milliers, les gens partirent, désespérés, vers de nouvelles contrées. D'exode en exode, le pays soninké se vidait de sa richesse et de tous ses habitants. Ce fut le début d'une longue et triste période pour le Ouagadou. Cependant, les soninké courageux fondèrent par la suite d'autres villes dans d'autres pays. Avec le temps, ils retrouvèrent la richesse et l'espoir, sans jamais oublier la légende du serpent Bida. Voilà, cette histoire est terminée. C'est la légende fondatrice du peuple soninké, dont une bonne partie a atterri à Montreuil. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est vraiment une légende assez terrible. C'est encore la femme qui est la cause des malheurs, et c'est la femme qui est complètement passive. Enfin, voilà, c'est... Il n'y a pas qu'au Mali qu'il y a des légendes comme ça. C'était la légende du Ouagadou Bida. Encore une petite chanson de Thomas Pitio, Jérémy Mojito Burres. Allez.
À côté de chez moi, on sait bien qu'il fait beau toute l'année. Certains disent que parfois il fait froid, mais nous on sait que la chaleur vient par tous les temps. Dès lors qu'on commence à discuter, il suffit de rencontrer des gens. Et c'est l'été dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. À côté de chez moi, on n'est pas là pour faire des problèmes. Même quand les chiens et leurs maîtres aboient, bah nous on s'aime. On joue tous à un, deux, trois soleils, loup glacé, ballon prisonnier. Quand on a trop faim ou trop sommeil, devinez qui apporte le goûter. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Il y a toujours mon copain. Il y a des mamans sur les toboggans et des papas sur les balançoires. Le piano fait chanter les enfants. C'est plus drôle qu'au conservatoire. Même quand on fait le grand nettoyage, qu'on ramasse les mégots, les canettes, on rigole et on fait bon ménage. On fait la fête, on fait la fête. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain. Quand je suis loin et en vacances, impossible d'oublier le square. Il me manque souvent quand j'y pense. J'ai le cafard. Si le square est splendide d'amitié, si le square est rempli de tendresse, maintenant tu sais grâce à qui c'est. Jérémy Mojito Burres. Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito Burres. Dans le square, il y a toujours mon copain. Dans le square, il y a toujours mon copain Jérémy Mojito.
Jérémy, mon fils.
Voilà, Thomas Pithiot, il ne reste plus qu'un titre, je pense que j'aurai le temps de le passer. L'émission sur l'exode, les migrations, les exils est terminée. La prochaine émission, eh bien, ça sera quand ? Ben, ça sera le 30, ah oui, il y a 5 mercredis au mois de janvier 2024. Le 31, pardon, le mercredi 31 janvier 2024, ça sera donc une émission hybride, la 16e, avec Philippe Godard, que nous avons déjà eu à ce micro. Philippe Godard qui parle d'anarchie et d'économie. Il a écrit un livre pour les pré-ados, on va dire très très bien, aux éditions Le Calico. Un livre qui est un très bon marché, je crois qu'il vaut moins de 10 euros ou aux alentours de 10 euros. Voilà, ça sera pour le 31. Ensuite, il y aura Flemmardise. Flemmardise qui sera consacré à Armand Gatti parce qu'il aurait eu 100 ans. Ça sera là avec son fils Stéphane Gatti. Bon, puis ça suffit pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'il y a le festival Son d'hiver. Là, c'est pour tout le monde. Enfin, le soir, c'est bien tard pour les jeunes enfants, mais c'est du jazz et des musiques actuelles. Dans le 94, ça commence le 19 janvier au Kremlin-Bicêtre. C'est toujours à 20h, donc ça finit jamais très très tard. On peut rentrer en transport en commun. C'est avec Ève Risser. Le lendemain, à Cachan, il y a Khalil, El Zabar, Ethnique, Héritage ensemble. Le dimanche 21 à 17h au musée du Quai Branly, il y a Trilogue, Gourtou, Quartet. Ensuite, le mardi 23, Marc Ribot à Fontenay-sous-Bois. Enfin, je ne dis pas tout, ça se termine le samedi 10 février à 20h à la Maison des Arts de Créteil avec Leïla Makkala. Il y a deux soirées qui sont à Paris, tout le reste est dans le 94. L'autre, c'est au Théâtre de la Cité Internationale où c'est Benoît Delbecq et Ambrose Akinmusir. Bon, j'arrête avec ce festival de sons divers que j'aime beaucoup. Les prix sont vraiment très, très raisonnables. Oui, c'est pas cher. Je sais plus combien. C'est entre... c'est au maximum 20 euros. C'est entre 15, 20 euros. Il y a même des tarifs encore moins chers pour... ça dépend. Vous verrez bien. Festival Sons divers du Val-de-Marne, 01 46 87 31 31. Bon, ben, je m'arrête là. Je vais laisser la place à Davout et au Club Ferré. Et je vous dis au revoir. Il y a le temps de mettre une chanson d'Anne Sylvestre supplémentaire. Les rescapés des fabulettes après l'indicatif. Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer. Avant qu'on les abîme, laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance, donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent, n'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
J'ai oublié de dire que tous les livres, les disques peuvent être commandés à Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h. Au revoir.